La République démocratique du Congo pourrait bientôt accueillir plus de 1 000 réfugiés afghans après avoir déjà reçu des migrants expulsés des États-Unis. On va explorer ce scénario pas banal.
Bonjour à tous, ce sujet est explosif, surtout avec toutes les tensions internes en RDC. Aujourd'hui, on va se présenter rapidement ces enjeux ensemble.
Au programme, pourquoi les États-Unis envisagent la RDC comme destination? Comment le gouvernement congolais réagit? Quelles conséquences pour la population locale? Et les questions de souveraineté nationale.
On va regarder ce qui se passe sur le plan humanitaire, suivre l'argent et surtout voir comment ces décisions sont perçues en RDC.
Il faut bien comprendre une chose, la RDC n'est pas seulement envisagée pour les réfugiés afghans. Depuis quelques semaines, des migrants expulsés des États-Unis y sont déjà envoyés dans le cadre d'accords de pays tiers.
Le projet d'accueil des Afghans s'inscrit dans cette continuité. La RDC se retrouve progressivement positionnée comme un espace de relocalisation pour des populations devenues indésirables aux yeux des autorités américaines.
La première ministre Judith Suminwa a présenté l'accueil de migrants comme un moyen de rendre service à Washington. Ses propos ont fortement fait réagir l'opinion congolaise. Ils ont été perçus par beaucoup comme une banalisation d'une décision aux conséquences pourtant lourdes pour le pays. Au-delà de la formule, c'est le signal politique qui a suscité le malaise. Une partie de la population y voit l'expression d'un rapport déséquilibré, où des choix engageant la souveraineté nationale semblent justifiés en référence aux attentes d'une puissance étrangère, plutôt qu'à une stratégie clairement définie pour la RDC.
Cette réaction ne tient pas seulement aux mots « employés », mais à ce qu'ils révèlent. Elle traduit une inquiétude plus profonde, celle d'un État perçu comme prêt à s'inscrire dans des arrangements internationaux sans garantie visible ni bénéfice tangible pour sa propre population.
La RDC fait déjà face à une crise humanitaire majeure, marquée par des conflits persistants à l'Est et des déplacements massifs de populations internes. Accueillir de nouveaux réfugiés, surtout issus d'un contexte très différent, ajoute une pression considérable.
La réalité, c'est que le pays peine déjà à répondre aux besoins de sa propre population. Dans ces conditions, intégrer des groupes venus d'ailleurs semble presque irréaliste. Les institutions, la logistique et même le tissu social sont fortement sollicités.
Et c'est pas qu'une question de nombre, c'est aussi la diversité des problématiques à gérer et le risque d'aggraver les tensions locales, surtout dans un contexte de précarité.
Ça me rappelle ces précédents où l'arrivée de populations déplacées a causé des frictions. Le défi est aussi symbolique. Comment l'État congolais peut-il préserver sa cohésion sociale?
On pourrait croire que ces transferts s'accompagnent d'un soutien financier solide. Mais en réalité, les montants annoncés sont dérisoires. Quelques dizaines de millions de dollars gérés par des agences internationales.
Et ces fonds ne vont même pas directement à l'État congolais. Ils sont fléchés vers des dispositifs humanitaires parallèles, avec une bonne partie absorbée par les coûts de gestion. C'est comme si le pays accueillait la charge, mais pas les moyens.
Le résultat ? Les ressources circulent, mais elles contournent l'État. Pas de renforcement durable des capacités publiques, ni d'effet visible pour la population.
Ça pose un vrai problème d'efficacité. Le pays absorbe la pression des crises mondiales sans pouvoir transformer ses flux en opportunités de développement. On est loin du partenariat équilibré.
Avec l'accumulation de ces décisions, la RDC semble glisser vers un rôle de zone de relocalisation dans l'architecture migratoire mondiale. Ce n'est plus une initiative isolée, mais une trajectoire assumée.
Ce schéma dépasse la logique humanitaire. Il devient un mécanisme pour externaliser les contraintes politiques des pays du Nord vers des États à faible capacité de négociation. Le pays ne définit plus ses priorités, il répond à des injonctions extérieures.
Ce qui est inquiétant, c'est le manque de garanties. Pas de transfert équivalent de ressources, pas de renforcement institutionnel. L'accueil ne découle pas d'une stratégie nationale, mais d'accords dont les termes sont fixés ailleurs.
Et le risque, ce n'est pas seulement pour la gestion migratoire, c'est la souveraineté même de l'État qui est en jeu, sa capacité à contrôler son destin face à des arrangements fragmentés.
Les constats s'imposent. La RDC accueille des réfugiés en pleine crise, les ressources financières sont faibles et externalisées, et le pays voit sa capacité à définir ses priorités nationales s'éroder.
L'arrivée de nouveaux migrants risque d'exacerber des tensions sociales déjà présentes. Plus largement, ces arrangements mettent en lumière un déséquilibre mondial où des États fragiles absorbent les conséquences de crises migratoires sans en définir les conditions.
Face à ces évolutions, une question s'impose. Quelle stratégie nationale guide réellement ces décisions et dans quelle mesure leurs termes sont-ils connus et discutés?
Merci d'avoir suivi cet épisode. On vous invite à partager vos réactions et à surveiller les prochaines actualités. À bientôt pour un nouveau décryptage.